J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les sorties de livres et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette deuxième de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir au téléphone l'auteur francilien Gwenaëlle Le Guélec, dont le troisième roman « Nous sommes la nuit » est paru le 8 juin 2023 aux éditions Nouveaux auteurs 2. Gwenaëlle, bonsoir.
Bonsoir Michel, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs, et merci à toi de m'accueillir dans ton émission.
Mais c'est un plaisir. Tu préfères le mot auteur, écrivain ou romancier lorsqu'on te présente?
Les trois me vont, mais peut-être que j'aurais une préférence pour écrivain. Ouais.
Bien, alors, comme ton nom l'indique, bon, tu es breton, même si tu t'es expatrié pour le travail en région parisienne depuis de nombreuses années. Tu es resté très attaché à ta région natale. Et à Brest en particulier, quel rapport entretiens-tu encore aujourd'hui avec la Bretagne et la sous-préfecture du Finistère?
À Brest, en fait, je vais pas le cacher, c'est ma ville de naissance, donc j'ai encore de la famille là-bas, mes parents. Donc oui, je rentre régulièrement, et puis l'écriture, c'est aussi une manière de garder le lien de manière un peu plus approfondie, on va dire.
Tu te souviens de, justement de tes premiers souvenirs de lecture et d'écriture?
Alors la lecture, en fait, assez étrangement, j'étais pas un très grand lecteur quand j'étais jeune. Il y a eu du Sherlock Holmes quand même qui est passé par là, quelques livres dont vous êtes le héros aussi, la collection de Bob Moran de mon père, et un petit peu plus tard, la saga La Tour Sombre de Stephen King. Ça a commencé comme ça. Après, quelques classiques, bien sûr, mais pas tant que ça. Ouais, en termes d'écriture, bah, c'est vrai que j'aime assez ça, mais avant mon premier roman, j'avais jamais vraiment écrit à ce niveau-là, quoi. J'avais écrit quelques récits de voyage, par-ci par-là, que j'ai eu une période où je voyageais beaucoup, surtout en Europe. Donc ça se limite à ça, quoi.
Tu es ou tu as été un grand lecteur?
On va dire que je le suis devenu parallèlement à l'écriture, en fait. Les deux sont venus en même temps, en 2014, en fait. En fait, il y a eu un palier précédemment, c'était 2009, on m'a offert Les Racines du Mal de Maurice Dantec, qui est pour moi un livre extrêmement marquant, qui a marqué un cap. Après, c'est vrai qu'il y a eu quelques années de latence, et depuis 2014, l'écriture et la lecture sont assez liées. Et je pense que j'ai trouvé le bon équilibre, là, depuis quelques années, et je continue, quoi. Et j'ai pas mal de livres de boîte à livres, notamment, et puis bon, j'ai les miens, bien sûr, j'ai quoi faire.
Tu as des autrices, des auteurs, des genres littéraires de chevet?
Le noir au sens large, on va dire, thriller, etc. Après, parmi les auteurs vivants, j'avoue que j'ai une préférence pour Jo Nesbø, l'auteur norvégien, qui est vraiment une pointure pour moi absolue en matière de thriller. Et bah, sinon, j'ai cité précédemment Dantec, parmi les auteurs qui ne sont plus de ce monde, malheureusement, qui m'a extrêmement marqué avec Les Racines du Mal, bon, La Sirène Rouge aussi, et quelques autres, mais après j'essaye de faire pas mal de découvertes.
À part l'écriture et la lecture, donc tu as d'autres passions comme les voyages, la musique et la photographie. Elles sont arrivées bien avant l'envie d'écrire.
La photo, j'ai eu une grande époque, maintenant j'en fais pratiquement plus pour ainsi dire. Après c'était un petit peu lié tout ça, parce que la photo, j'aimais bien en faire quand je voyageais. Et en même temps les voyages m'ont donné une inspiration, même sans le savoir à l'époque, ça commençait déjà à naître en moi de la matière en fait qui allait ressortir plus tard. Et puis la musique effectivement. Là par contre ça fait depuis vraiment l'enfance que j'en écoute. J'ai commencé avec des bandes originales de films. Après j'ai eu une grosse période Queen. Et puis après j'ai découvert le Massive Attack, le trip-hop, l'électro. Et ça fait partie de ma vie quasiment au quotidien. Et c'est souvent d'ailleurs quand j'écris j'écoute de la musique en même temps. Pas mal de types ces derniers temps. Donc le label Anjuna Beat notamment.
Tu es donc, même si tu l'es moins aujourd'hui, un passionné de photographie. Depuis quand t'es-tu pris au jeu de l'argentique puis du numérique alors?
Alors moi j'ai travaillé que sur du numérique, sauf à l'école primaire en fait. On avait un instituteur qui nous avait appris vraiment les rudiments de la photo argentique, qui lui était un passionné, et d'ailleurs dont je me suis inspiré pour un des personnages qui est présent dans les deux premiers romans, qui s'appelle Claude. Sinon j'ai travaillé moi uniquement en numérique, quoi. En fait ça a commencé quand j'ai commencé à voyager un petit peu à l'étranger, quoi, en 2009 en fait, avec un premier séjour en Londres. Puis j'ai continué. Au début, j'ai travaillé avec un Lumix de Panasonic. Et après, j'ai investi dans un Reflex, un Nikon. Et après, bon, bah, j'ai un peu levé le pied parce que la photo et l'écriture, c'est deux hobbies assez chronophages. Et qu'il a fallu faire quelques choix, quoi.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu t'es lancé dans l'écriture d'un roman?
J'avais eu des idées qui avaient germé. Déjà, les toutes premières idées, ça remonte à 2008, donc, tu vois. pour un roman qui est sorti en 2019, donc il y a eu le temps de maturation, on va dire. Et puis, un jour, j'ai une amie qui m'a dit, mais je lui en avais parlé en fait, elle m'a dit, pourquoi t'écris pas le roman pour lequel t'avais eu des idées? Attends, c'était juste des idées, etc. Mais bon, ok, j'ai cherché dans mes archives, j'ai aussi retrouvé le papier sur lequel j'avais pris des notes. Puis je me suis dit, bon allez, ok. Et j'ai commencé, c'est vrai que ça se tenait en fait, il y avait pas mal d'idées intéressantes. Le noir et blanc, la photo, bref, bon, il y a quelques idées que j'ai laissé de côté, mais il y avait une matière de base, quoi. Et puis bon, après je l'ai écrit. Et en fait, ce premier roman, c'est vrai que quand je me suis lancé, je savais pas qui serait le tueur. Donc ça s'est fait au fur et à mesure de l'écriture. Donc il y a eu une écriture assez qui s'est faite par strates, on va dire, tu vois. Peut-être pas à l'aveugle, mais elle était très particulière, cette écriture-là. Après, je me suis un petit peu plus, entre guillemets, professionnalisé pour les suivants.
T'avais pas forcément l'histoire en tête, alors?
Non, ça venait au fur et à mesure.
En écrire une trilogie, c'était pas forcément une évidence pour toi, ou ça l'est devenu après?
Pendant l'écriture du premier, je me suis dit que je voudrais bien en faire trois, avec le personnage et puis le concept qui va avec, quoi. C'est-à-dire qu'un homme qui voit le monde en noir et blanc du fait d'une maladie très rare qui s'appelle la chromatopsie, mais qui existe vraiment. En fait, pour tout dire, j'ai cherché le concept avant de trouver le personnage. J'ai eu cette idée-là d'un personnage qui verrait en noir et blanc, mais est-ce que ça existait? Et là, j'ai épluché toutes les maladies qui existaient d'un point de vue oculaire. Et là, j'ai vu que c'était bon. Et ça a été une base, après, qui m'a permis de construire autour, quoi.
Donc, le personnage principal s'appelle Yoran Roscoe, habite au départ à Brest. Yoran est une variante bretonne de Georges. Roscoe est le nom breton de la ville de Roscoff, mais aussi une bière. Pourquoi l'avoir appelé ainsi? Tu as des affinités particulières avec le prénom, la ville de Roscoff ou la bière Roscoe?
La bière, non, parce que c'est pas forcément ce que je préfère. Son prénom, par contre, moi j'aime beaucoup ce prénom breton. Et il est assez rare, je veux dire. Je connais personne qui le porte, d'ailleurs. Et en fait, Roscoe, effectivement, c'est le nom breton de Roscoff. Et je trouvais que ça claquait bien. Ça fait breton, et en même temps, ça fait... Enfin, autant son prénom aussi, ça fait... Je pourrais penser que ça vient des Balkans, tu vois. Il y a une petite connotation internationale dans tout ça.
Tout à fait.
Et en même temps, régional, on va dire. Donc ça m'allait bien. Ça claque, en fait. C'est important. Parce qu'après, on garde un moment. Ça.
Donc, Yoran Roscoe, tu le disais, était atteint d'une maladie rare, la chromatopsie, qui oblige à percevoir le monde qui l'entoure en nuances de noir et blanc. Alors, pourquoi un tel handicap pour un personnage? C'est parce que tu préfères la photo en noir et blanc?
En fait, c'était le concept, quoi. C'était une manière de sortir de l'ordinaire. Parce que je savais que je ne serais pas capable d'écrire sur un policier ou un agent secret ou autre. Ça aurait pas été assez crédible. Il y a des gens qui exercent ces professions-là ou qui les ont exercées. Eux, ils vont faire quelque chose de crédible. Tout de suite, je serais passé derrière. Donc, il fallait que je trouve un autre moyen de rendre le personnage accrocheur, quoi. Donc, ça, c'en était un. Et ouais, juste pour préciser, effectivement, il perçoit le monde en nuances de noir et de blanc. Et il est très sensible à la lumière. Un petit point supplémentaire qui fait que c'est un personnage qui vit quasiment exclusivement la nuit, quoi. Donc, ce qui ajoute aussi à l'atmosphère du roman.
L'image que tu laisses de Brest est loin d'être idyllique. Ce n'est que celle de Yoran Roscoe ou c'est la réalité?
J'ai envie de dire, en fait, Brest, pour reprendre la phrase d'une amie, c'est une ville qui a un petit peu la gueule de travers depuis qu'elle a été détruite par les Alliés, pour rien en plus, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on repart avec une partie avec de gros handicaps en termes de reconstruction. Ça a été fait à la va-vite, pas comme il faudrait, parce que c'est une ville qui est très exposée au vent, ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire en termes d'architecture. Enfin bon, du coup, c'est pas lisse. Et c'est toujours plus intéressant d'écrire sur quelque chose qui n'est pas lisse, autant en termes de personnages qu'en termes de lieux. Moi j'aime beaucoup, et d'ailleurs en termes de photos, c'est une ville, on va dire que c'est pas très beau, et pourtant c'est très photogénique. J'ai quelques amis photographes qui font un travail incroyable. Par contre, il y a aussi un contraste que j'évoque un petit peu dans le premier, je crois. Il y a le Brest quand on est dans la ville, et le Brest quand on arrive par la mer. Et c'est vrai que c'est assez différent. Quand on arrive par la mer, c'est quelque chose, ça a de la gueule, quoi. Et quand on est en ville, on s'en rend pas forcément compte. Après, beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs finissent par, sinon tomber amoureux de Brest, au moins s'y accrocher fortement, quoi. Puis il y a aussi les gens qui... Il y a quelque chose, quoi. Je sais pas comment dire, mais c'est des personnes de peu de mots, mais qui ont souvent du cœur, c'est important.
Yoran Roscoe est un breton passionné de photographie et de musique. Quels autres points communs a-t-il avec toi, à part les voyages?
Ça en fait déjà trois, plutôt pas mal. Après, quand il est lancé sur quelque chose, il lâche pas l'affaire. C'est pour ça qu'il y avait trois romans à écrire. Après, il y a des ressemblances, il y a des différences, mais c'est vrai qu'il y a de moi dans ce personnage, et dans quelques autres aussi. Je pense que c'est un petit peu le cas pour beaucoup d'auteurs. Et puis, il y a des personnages qui sont issus de mon passé, que j'ai fait intervenir à nouveau dans le roman. Des petits clins d'œil, des personnes de ma famille, des amis.
Ton personnage voyage à travers l'Europe et le Japon. Alors toi aussi, tu es allé dans ces pays et ces lieux que tu décris, ou c'est un rêve que tu réalises à travers l'écriture?
La grande majorité des lieux dans lesquels se déroule l'intrigue, j'y suis allé. Et d'ailleurs, je disais que le concept du noir et blanc m'était venu avant. Les lieux aussi, souvent, s'imposent d'eux-mêmes. Et après, je cherche à construire une intrigue qui me permettrait de mettre en scène ces lieux.
Tu as commencé l'écriture de ton premier roman en 2014, d'après ce que j'ai lu. Armorican Psycho est paru le 11 avril 2019 aux éditions Nouveaux Auteurs. Alors j'imagine qu'il t'a parfois dû 5 ans pour écrire. La recherche d'un éditeur a été longue.
Pour reprendre toute l'histoire, je l'ai écrit en 4 ans et demi, mais alors le premier c'était... Étonnamment, j'étais très sensible à la saison, j'étais inspiré au moment des saisons sombre, on va dire, donc en fin d'année, début d'année. Et après, ça se tarissait d'un coup. Donc, du coup, il y avait des grosses phases de latence. Et puis, plus j'approchais de la fin, plus j'y allais vraiment, quoi. Pour les deux autres, par contre, ça a été en moyenne un an et demi d'écriture, donc plus resserré déjà. Concernant donc la recherche d'éditeur, je veux dire, ça s'est fait très vite, ça s'est fait en 3 mois de mémoire. J'avais fait protéger le manuscrit à la Société des gens de lettres. Et aussitôt après, j'ai démarché. Donc, les auteurs, je ne le connaissais pas avant. C'est un des premiers éditeurs à qui j'ai écrit. J'ai écrit à de mémoire 44 éditeurs. Donc, soit en envoyant le manuscrit complet, soit en envoyant à leur demande le synopsis et le plan détaillé. Et en fait, ils m'ont répondu. Donc, je leur avais écrit, je crois, en octobre. Et en janvier 2019, ouais, j'avais un retour positif. Donc, j'avoue que c'était rapide.
On parle souvent du travail de l'éditeur avec l'auteur. Alors, quel regard a apporté justement nouveaux autres? Vous avez beaucoup échangé avant la sortie.
Alors, la chance que j'ai eue sur le premier roman, c'est que non seulement il a été édité, mais il a gagné le prix du suspense psychologique, qui est un prix qui est mis en place chaque année par nouveaux auteurs et qui bénéficie d'un parrain. Donc, qui fait soit une, soit deux éditions. Et cette année-là, c'était la première édition avec Bernard Mini. Et si tu veux, quand il a choisi ce roman, il m'a envoyé des conseils, on va dire, sur une petite dizaine de pages pour affiner, améliorer ici et là, quoi. Et du coup, ça a été en gros, la base éditoriale sur le premier. Après, sur les deux autres, c'était très différent, puisque là, il y avait vraiment une éditrice dédiée avec une chargée d'édition et un travail, on va dire, plus poussé.
Est-ce que c'est toi qui as décidé des titres de tes 3 premiers romans?
Alors, le premier, oui. Celui-là, j'y tenais énormément, parce que je l'ai eu assez tôt en tête, donc j'avais qu'une crainte, c'était que quelqu'un d'autre ait la même idée. Le deuxième, par contre, j'avais mis un autre titre, j'avais proposé un autre titre, mais c'est non pas l'éditeur, mais le diffuseur qui a préféré qu'on change, parce que je voulais rester un petit peu dans l'idée des titres en anglais, avec des connotations un peu sombres, et ils n'ont pas voulu. Et pour le troisième, c'est le mien qui a été gardé. Bon, 2 sur 3 pour l'instant.
Toi, le passionné de photos, tu n'es pas à l'origine des photos, des couvertures de tes 3 premiers romans, c'est forcément une frustration.
Pas forcément, non. J'ai pas la prétention d'être en mesure de faire la meilleure photo qui soit pour des couvertures, donc je leur ai fait confiance. Le premier, ça a été la surprise totale. Ils aiment bien faire ça, en fait, sur un premier roman. Choisir la couverture de leur côté, et puis idéalement, que ça fasse plaisir à l'auteur. Donc j'avais pas eu à me plaindre, je trouve qu'elle était pas mal. Après, celle que Pocket a fait, puisqu'ils sortent ensuite chez Pocket, je la trouve super aussi pour le premier. Pour le deuxième, ils ont suivi mes recommandations. En fait, j'avais proposé une sorte de montage, et c'est ça qui a été fait. Ça a été gardé d'ailleurs par Pocket, ce qui est assez rare. La couverture est la même en grand format et en format poche. Pour le troisième, j'avais donné quelques indicatrices et apparemment, ils en ont tenu compte. Donc, jusqu'à présent, au niveau couverture, j'ai pas trop à me plaindre.
Même s'il ne faut rien dévoiler aux lectrices et aux lecteurs, peux-tu nous raconter alors très brièvement l'histoire de Yoran Roscoe et de l'intrigue des 3 romans?
À la base, il travaille comme consignataire de navire sur le port de Brest. Et alors, dans le premier roman, Armoricane Psycho, il est appelé et contacté en fait par un policier parce que on aurait retrouvé apparemment le corps de son mentor en matière de photographie, son domicile, et avec la particularité, le corps a été recouvert de sel. En fait, très esquinté, hein, pour dire la chose simplement, et couvert de sel. Donc, il est amené à aller confirmer que le corps est bien celui de son mentor à la morgue de l'hôpital Morvan à Brest. Et il se trouve que c'est pas son mentor, c'est un corps qui est recouvert de tatouages en Hognorsk, c'est-à-dire du haut norvégien. Et du coup, ça va l'amener à chercher à savoir qui est cette personne, déjà, et puis qu'est devenu son mentor, quoi. Voilà l'intrigue qui se passe en grande partie à Brest, en Bretagne, et qui décolle après pour la Norvège et pour l'Islande. Hein. Toujours pareil, j'évoque les endroits qui me tiennent vraiment à cœur. Et voilà pour le premier. Après, le deuxième, Elvis pour l'enfer. Alors cette fois, ouais, il y a 3 corps qui sont retrouvés pendus dans la taïga, à la frontière entre la Finlande et la Russie, avec gravé dans leur chair, chacun un mot, dead for no one, donc mort pour personne. Et apparemment, il y a un navire qui est retrouvé sans équipage au large de Brest. Et il se trouve qu'une des personnes retrouvées pendue dans la taïga était, je crois, de mémoire, hein, l'armateur de ce navire. Apparemment, Yoran va s'engager, chercher à savoir ce qui s'est passé exactement. Puis ça va le faire voyager cette fois-ci un petit peu dans l'ordre de l'Europe, mais surtout dans l'Est cette fois-là, jusqu'au fin fond du Kouzbass. Et il sera amené à découvrir une intrigue assez, assez sombre. Je pense que le deuxième, c'est le plus sombre des 3. Après le troisième, Nous sommes la nuit. Donc cette fois-là, bon, je suis obligé de divulguer un petit peu, mais cette fois-ci, autant dans le premier, il était basé à Brest. Dans le deuxième, je ne l'ai pas précisé, mais il est basé à un hôpital dédié au traitement des maladies oculaires très rares, qui est à Rotterdam, aux Pays-Bas. Et dans le troisième, il s'est installé au Japon, en fait, où il pratique enfin la photo pleinement. C'est à la fois un loisir et une profession. Et il a l'habitude de participer à ce qu'on appelle un photo game, c'est-à-dire compétition internationale qui regroupe les photos des meilleurs photographes et qui récompense en fait celles qui sont préférées par un jury. Sur une des galeries qu'ils consultent après une session de photos, ils découvrent une mise en scène très artistique macabre, puisque c'est un corps sans vie qui est sur cette photo. Et là, ben, ils vont enquêter là-dessus, ben, chercher à savoir qui est cette personne et pourquoi cette mise en scène. Et ça va l'envoyer vraiment beaucoup dans Tokyo la nuit, mais aussi dans d'autres endroits du Japon. Et puis, à nouveau, je me suis permis un petit crochet par l'Europe, toujours dans les endroits que j'ai adorés. Sienne, qui est ma ville préférée en Italie, et puis un petit tour par Prague aussi, en République tchèque. Le Japon reste quand même à l'honneur dans le troisième roman. C'est presque une déclaration d'amour à ce pays, quoi.
Et pas qu'au pays. Il y a une noirceur dans tes trois premiers romans, puisque Yoran Roscoe voit le monde en nuance de noir et blanc. Même lorsque l'action se passe en journée, on a toujours l'impression qu'il fait nuit. Ça a été facile de se mettre dans la peau du personnage?
Ouais, je dirais que oui, d'autant que certains périples qu'il fait, j'ai des faits vraiment à proprement parler, comme certains bateaux. Je sais que dans le premier moment, il prend un bateau du nord de l'Islande pour aller jusqu'à Grímsey, qui est l'île plutôt nord de l'Islande, située sur le cercle polaire arctique. Et ce bateau, je l'ai pris. Donc je voyais très bien comment c'était à l'intérieur. Le film qui est diffusé pendant la traversée, alors je ne sais plus maintenant lequel c'était, parce que ça remonte un petit peu l'écriture, mais j'ai indiqué là. Enfin, des petits détails comme ça. Il croise aussi un personnage, un prêtre, qui s'apprête en fait à aller célébrer, entre guillemets, un enterrement sur l'île de Grímsey, qui buvait l'alcool à bord, et ça je l'ai vraiment vu. Donc tu vois, j'aime bien reprendre presque des morceaux de vie et d'insérer dedans, quoi.
Avec Yoran Roscoe, on voyage et on découvre plein de lieux insolites dans des conditions climatiques souvent difficiles, je trouve. On se demande comment il fait pour résister. La vie de Yoran est loin d'être rose, reposante et idyllique. T'es dur avec lui, parce qu'en plus, il se repose jamais.
Tu entends quand même en journée, notamment dans le premier, je montre bien que quand tout le monde vit, lui, c'est là qu'il break, quoi. C'est vrai que de nuit, il sort beaucoup. Quand c'est pas pour enquêter, c'est pour prendre des photos. Il s'ennuie pas, quoi.
Tout le long des trois romans, Yoran Roscoe fait des rencontres improbables, n'a peur de rien et ose braver le danger. C'est son handicap qui le fait sans cesse repousser ses limites.
Je sais pas si c'est lié à son handicap, mais c'est une seconde nature chez lui. Enfin, une fois qu'il est lancé sur quelque chose, il va au bout, quoi. Même si les conséquences sont parfois difficiles ou tragiques. Ça me revient dans le deuxième roman. Il est amené à enquêter un peu sur le passé de son père, et c'est pas forcément très rose, mais il lâche pas l'affaire, il va au bout, quoi. Et à la fin, on va dire que certaines âmes damnées parviennent partiellement à se racheter. Mais c'est, comme pour le reste, c'est jamais lisse, quoi. Jamais.
Les trois romans sont empreints de noirceur et de peu d'optimisme. C'est facile pour toi d'en ressortir indemne, d'écrire un tel personnage, t'as laissé des traces?
Bah, c'est sûr que quand je suis lancé dans l'écriture d'un roman, je suis vraiment dedans, quoi. Tout au long de l'écriture, j'y pense, c'est mon univers. Je visionne des scènes avant ou après leur écriture. Et c'est une manière d'affiner aussi les choses en les pensant, en les repensant. Enfin, c'est comme être dans une bulle dans laquelle je m'immerge tout au long de l'écriture. Après, quand je mets le point final, quand tout est terminé, voilà, je passe à autre chose. J'ai déjà des idées pour un autre projet et puis je commence à m'immerger dedans. Mais c'est une expérience assez intégrale, on va dire.
Ça laisse des traces ou pas, alors?
Des traces, je sais pas, mais c'est une implication, une véritable implication. Je sais pas si on peut dire que ça laisse des traces.
Sur Armorican Psycho, il est écrit polar et thriller sur les deux autres. La nuance est loin d'être évidente. Polar et thriller seraient plus judicieuses, finalement, non?
Le premier, je le voyais vraiment comme un roman noir. Notamment parce que il y a un côté enquête dans un même lieu presque, puisqu'il se passe en grande partie à Brest, même s'il y a un passage en milieu de roman dans les pays nordiques, mais il y a une certaine unité de lieu avec quelques personnages, notamment le policier Gilbert Lebris, sa petite amie aussi, Eiko, qui vit sur le port de Brest, qui est à Toulouse. Donc bon, eux, ils l'ont identifié polar, ça me va. C'est vrai que le deuxième et le troisième, on bouge beaucoup plus, il y a quelque chose de très international dans la mise en place des intrigues aussi, donc c'est du thriller. Maintenant, je suis plutôt sur le thriller. On va dire que le premier, ça a été un roman noir, et maintenant, je fais du thriller.
Tu le disais, tu as reçu des mains de Bernard Binier, donc le Grand Prix Suspense Psychologique, en 2019, pour ton premier roman, donc American Psycho. Tu as reçu également un autre prix du Goéland Masqué en 2020. Après ces prix, est-ce que les salons t'ont forcément invité? T'es devenu une star du polar après ces prix?
Non, c'est peut-être pas exagéré, malheureusement, ça se passe pas comme ça. C'est vrai que ces deux prix ont offert une belle visibilité au premier, et il faut bien reconnaître ça aux nouveaux auteurs, c'est qu'ils mettent le paquet sur les premiers romans, en les installant vraiment bien visiblement chez les libraires, en choisissant quand même des présidents de jury qui sont quand même des pointures, hein. Parce qu'avant Bernard Minier, il y avait eu Franck Thiez, il y en a eu d'autres depuis, il y a eu Claire Favant, Nicolas Beuglé, et cette année, je me souviens plus qui c'est, mais c'est une pointure aussi.
Bah toi, c'est Bernard Minier quand même, c'est pas...
Ouais, je suis content, ouais. C'est vrai qu'il a pas fait semblant de... de me donner des lignes directrices. Donc, le premier, c'est celui sur lequel j'ai fait le plus d'événements, je pense. Après, malheureusement, le deuxième, il est sorti en début 2021 et on était encore dans la phase Covid assez costaud. Donc, ça a assez limité sa sortie, sa visibilité et les événements liés. Et pour le troisième, il n'y a pas eu beaucoup d'événements non plus, malheureusement. On a quand même eu un beau là qui vient d'avoir lieu début du mois de novembre, c'était la Nuit Blanche du Noir à Mons en Belgique, qui m'avait déjà invité en 2021 pour le deuxième, et qui m'a offert la chance d'être à nouveau parmi les auteurs présents cette année. C'était vraiment super quoi. Là, on se rencontre autant entre auteurs qu'avec les lecteurs. Puis les Belges ont un cœur énorme, j'adore vraiment aller là-bas, quoi. Gros souvenir.
Tu es intervenu dans la table ronde « Quand les maladies et les addictions deviennent des personnages à part entière » avec Victor Guilbert et Santiago Diaz. Comment s'est passée la rencontre avec le public ?
Très bien, en fait, c'est un festival qui s'appelle « La nuit blanche du noir » parce qu'il a la particularité de se dérouler en soirée et en début de nuit. Donc il y a une atmosphère assez intimiste qui le fait vraiment sortir du lot, je pense, par rapport à d'autres festivals où il n'y a pas beaucoup de monde. Cette année, ça se déroulait dans une chapelle convertie en espace culturel, en fait. Moi, je me sens bien, les gens sont passionnés. C'est vraiment ça, tout le monde est passionné, les auteurs, les lecteurs, les organisatrices. Ouais, vraiment, c'est un super souvenir.
On fait toujours de belles rencontres dans les salons. Lesquelles t'ont marqué en Belgique, justement ?
En fait, j'avais déjà rencontré, il y a 2 ans, Yann Manouk, qui était là-bas à l'époque avec... il y avait Nicolas Feuze aussi qui était présent. Et cette année, en fait, il était encore présent, puisqu'il est... Yann Manouk est désormais le parrain de l'événement. Donc, en principe, ça veut dire qu'il sera là tous les ans. Et du coup, on a échangé pas mal cette fois-ci... On a même passé le deuxième jour, pour ainsi dire, toute la journée ensemble, jusqu'au retour sur Paris. Donc c'était vraiment génial, on est rentrant en voiture. Il y avait Gérard Coquet aussi, qui est un autre auteur. En fait, ils écrivent à quatre mains des romans en ce moment chez M+ Éditions. Et puis, Françoise, qui est l'épouse de Yann Manouk, qui est adorable également. J'ai déjà beaucoup apprécié il y a 2 ans. Sinon, j'ai rencontré, comme tu disais, Victor Guilbert, que je connaissais de nom. D'ailleurs, j'ai acheté son premier roman Douvres, qui m'inspirait depuis quelques temps. Donc je suis content, je vais faire ma prochaine lecture. Très sympa aussi, il vient à New York, il vient en France de temps en temps pour des salons, des événements. Et voilà, quoi, Santiago Diaz, on n'a pas trop échangé. C'est comme ça. Je pense qu'il est un petit peu, entre guillemets, au-dessus de la mêlée, parce que j'ai l'impression que c'est quand même une star en Espagne, donc c'est un autre type de personnage, on va dire.
Nous sommes la nuit et ton troisième roman. Tu ne devrais plus être un inconnu aux yeux des lectrices et des lecteurs. T'as l'impression que c'est toujours le cas ?
Là, comme je disais, autant pour le premier, ça avait vraiment... On en a parlé. Le deuxième, il y a eu, malgré tout, quelques beaux articles aussi dans les médias. Le troisième, c'est plus dur. Là, je suis un petit peu chagriné par ça, mais bon, c'est pas un milieu très facile, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une époque où il n'y avait quasiment pas d'auteurs français. Il y a eu Granger qui est arrivé, qui a été un petit peu le pape du thriller, on va dire. Et puis, il y avait des places après qui étaient à prendre. Donc, on sait qui les a prises. Yves, Minier et Norek. Et derrière, après, c'est la foire d'empoigne. Alors, il y a un premier cercle, on va dire, qui débrouille bien, Tachyon et compagnie, où ça va, quoi. Après, derrière, on est vraiment de plus en plus d'auteurs français, donc c'est de plus en plus difficile de tirer son épingle du jeu, et encore plus depuis le Covid, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont mis à écrire, donc il y a plus de matière chez les éditeurs. Donc, c'est pas évident. En plus, autant La Nuit Blanche du Noir, elles le disent, elles font venir uniquement des auteurs et des romans coup de cœur, autant il y a beaucoup de salons qui fonctionnent avec des cercles d'auteurs qui sont un peu toujours les mêmes. Et là, c'est assez difficile d'y entrer. Donc, moi, j'y suis pas. Je suis pas un grand communicant de toute façon, donc c'est pas forcément mon point fort. Mais du coup, il y a beaucoup de salons qui tournent avec les mêmes auteurs. Donc derrière, aussi, ça laisse moins de place pour les autres, les moins connus.
Tu n'es pas un homme de réseau.
Non, je suis présent depuis que j'écris sur Instagram et Facebook, mais ça s'arrête à ça, quoi.
Même sur Facebook, on ne voit pas beaucoup.
Je suis plus sur Instagram, mais il faut pas non plus tomber dans le piège d'y passer trop de temps, parce qu'après. Ouais. Et laisse moins de temps pour l'écriture, au hasard.
C'est vrai.
Pour
la lecture. As-tu d'autres projets sur les rails ? Yoran Rosko sera-t-il encore de la partie ?
Là, comme on l'a dit, Yoran Rosko, il a eu droit à sa trilogie. Je pense que il a dit ce qu'il avait à dire. Là, je vais pas dévoiler la fin du dernier, mais
non.
Le temps est venu de passer à autre chose. Donc effectivement, j'ai plusieurs projets sur les rails, dont un qui est plutôt bien lancé. Je serai uniquement sur des one-shots, a priori, pour les années à venir. Je vais voir si ça fait une différence auprès du public par rapport à une série. Puis bon, mes idées font que c'est plutôt du one-shot sur lequel je m'oriente.
Reverra-t-on un jour Yoran Rosko ?
Pour l'instant, c'est pas prévu. Après, voir ce que l'avenir réserve, et puis sous quelle forme. Mais j'ai besoin de faire autre chose pour moi déjà. Il faut que je me prouve que je suis capable de faire autre chose. Et puis pour le public aussi, quoi. Montrer que je suis pas uniquement coincé entre guillemets dans un seul type d'écriture.
Bien, tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace et tes auteurs de chevet. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture, si tu veux bien.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les sorties et les dates des prochaines séances dédicaces. Gwenaëlle, quel est ton dernier coup de cœur littéraire ?
Plusieurs ? Je peux te permettre d'en citer deux.
Oh, oui, tu peux.
Ouais. Là, je suis en train de terminer un roman. Alors, je sais pas de... Donc, on n'a pas complètement terminé, mais bon, il est quand même pas mal. C'est... Ça s'appelle Inavouable de Zygmunt Milosevski, un auteur polonais qui commence à faire un petit peu parler de lui en France, qui est très connu là-bas. C'est une intrigue, en fait... avec des liens avec la Seconde Guerre mondiale et le milieu de l'art, et notamment une peinture qui a véritablement disparu, qui est le jeune homme de Raphaël, en fait. Une équipe de spécialistes de l'art, on va dire, est montée, un petit peu comme les Monuments Men à l'époque, sauf que là, c'est de nos jours. Et ils enquêtent un peu partout à travers le monde, essentiellement en Europe, mais pas que, pour essayer de déterminer ce qu'est devenue cette peinture. Et c'est pas mal fait, quoi. J'aime bien l'idée d'une équipe qu'on constitue, qui part sur les traces, part sur une quête comme ça, et... on voyage pas mal, donc forcément ça me plaît aussi. L'autre roman dont je voulais parler, c'était cette année, c'est un de ceux que j'ai préféré, et c'est pas du thriller pour le coup, c'est, ça s'appelle Les Miracles du Bazar Namiya, qui a été écrit par Keigo Higashino, donc auteur japonais. C'était mon premier de lui, et j'ai beaucoup aimé. C'est apparemment sa première incursion dans le fantastique. J'ai pas lu d'autres romans de sa plume, donc je peux pas confirmer, mais c'est trois jeunes hommes qui, après avoir commis un effet, sont amenés à aller se cacher dans, je crois que c'est dans une boutique, une ancienne laiterie, je crois. Et à un moment, il y a une lettre qui arrive pendant la nuit, à travers la boîte aux lettres. Et cette lettre, elle demande des conseils à l'ancien gérant, l'ancien tenancier de la laiterie, sauf qu'elle est datée de plusieurs décennies dans le passé, quoi. Du coup, comme si la lettre venait du passé, donc eux, ils y répondent, tant bien que mal, et puis ils reçoivent une autre réponse, et ainsi de suite. Et en fait, la boîte aux lettres du laitier, qui n'est plus de ce monde... en fait, elle leur permet de communiquer avec le passé, quoi. Ils répondent à sa place. Et c'est assez fascinant. J'ai beaucoup aimé ça.
Alors, côté sortie, rapidement, parce qu'il y en a tellement que ça durera trop longtemps. Le nouveau polar de Jacques Sausset, Ce qu'il faut de haine. Le dernier polar de Xavier Massé, La route du lac. Le deuxième roman de Jean-Pierre Collet, Claudette et la centrale, qui viendra nous présenter le jeudi 1er février 2024. Le quatrième polar historique de Yann Botrel, L'affaire Gouffée, que nous accueillerons le jeudi 4 janvier 2024. Et puis le dernier livre, c'est pas un polar, de Monique Pinson-Charlot, Le méprisant de la République, petite encyclopédie critique et une chronique de la lutte contre la réforme des retraites portée par un président arrogant, si vous voyez ce que je veux dire. Pour terminer l'émission, quelques dates de séances dédicaces. Tout d'abord, est-ce que tu as une date de dédicace à nous annoncer ?
De mon côté, j'en ai une. En principe, je serai au salon Lire la Bretagne, qui se déroule tous les ans à Paris, à la mairie du 14e. Alors, j'ai pas le jour exact, c'est au début du mois de février, donc peut-être aux alentours du 2, 3, 4 février par là. Qui regroupe en fait tous les auteurs qui ont un lien avec la Bretagne. Et qui sont en Ile-de-France.
D'un autre côté, on va commencer le samedi 25 novembre avec à la FNAC à Belleville-sur-Saône, c'est Luc Charin, un auteur bressan. Au Clos des EQE à Tignas, c'est le marché de Noël avec notre animée animatrice qui était venue nous voir il y a deux semaines, Mathilde Duchosal, l'après-midi, qu'on retrouve le matin à la bibliothèque de Buelas. Et puis à la salle Maurice Baquet à Chazet d'Azergues, le salon du livre avec Sorge Chalandon, Nathalie Bianco, Claudie Wetterwald, Yann Botrel, Florence Fréguin-Schneider, de 10h à 18h. Et à la salle des Voraces à Lyon, dans le premier, le salon des Plumes de Lyon, avec Grégoire Godineau. Le samedi 25, au manège à l'Espace Saint-Germain à Vienne, il y a le Festival Sans d'encre, le salon du polar. Oui. Il y a un plateau intéressant avec Arthur Roger, Ophélie Cohen, Hergé Ellory, Xavier Massé, Gérard Sarian, Antoine Renan, Nico Tacquian, Sonia Delzongle, Éric Foissier, Alain Descortes, Sébastien Julien, Jacques Maurice et plein d'autres. Et puis ils sont également le dimanche 26 novembre 2023. Le dimanche 26 novembre 2023, à la médiathèque à Montmerle-sur-Saône, il y aura le 4e salon du livre de Montmerle de 10h à 18h avec Florence Fréguin-Schneider. À la salle des fêtes de prière, il y aura la Bourse au Livre avec Jean-Pierre Collet et Patrick Pouget. Et puis le vendredi 1er décembre, au Salon de la Préfecture de l'Ain à Bourg-en-Bresse, il y a une soirée dédicace de l'Académie de Brest, pardon, de 17h30 à 20h avec Camille Lacour, Denis Nicolaï et Luc Charin et plein d'autres. Et puis donc le dimanche 3 décembre, au Foyer Rural à Saïnard, le Salon du Livre de Saïnard avec Florence Fréguin Schneider. Romain de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Gwenaëlle Le Guélec, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Romain de Gare.
Merci à toi. Merci, c'était un plaisir. Au plaisir de remettre ça pour la prochaine fois.
Alors rappelons que ton troisième roman, Nous sommes la nuit, est paru le 8 juin 2023 aux éditions Nouveaux Auteurs 2. On peut se procurer où, sans oublier Armorican Psycho et Exil pour l'Enfer.
Alors en principe, ils sont trouvables presque partout, d'autant que les deux premiers sont sortis chez Pocket, donc là ça permet une diffusion assez généralisée. Le troisième, pour l'instant, c'est exclusivement en grand format. Certains libraires l'ont toujours en rayon, d'autres pas, faut pas hésiter à demander de toute façon.
Sans oublier les réseaux sociaux.
Oui, bah surtout Instagram, là, faut pas hésiter.
Le prochain invité de Roman de Gare, ce sera le jeudi 7 décembre 2023 à 18h30. Ce sera la romancière Florence Fréguin-Schneider, dont je parlais tout à l'heure avec les séances dédicaces. Elle nous présentera sa trilogie polar, entamée en 2014 avec Une poupée de chiffon blanc et achevée en 2023 avec La femme au bord du Rhône. Ce dernier roman vous entraînera de Lyon et Charbonnière à Bourg-en-Bresse, en passant par Trévoux, le Beaujolais et la Dombe mystérieuse. Eh bien, bonne chance pour la suite de tes aventures d'écrivain.
Merci beaucoup.
Bonne lecture, bon salon. À bientôt sur Radio B.
Avec grand plaisir, à bientôt. Bonne continuation. Et bonne lecture aux auditrices et aux auditeurs. Ciao.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé.